Bonsoir et bienvenue sur Agora Côte d'Azur dans Parlons des droits humains, une émission proposée et animée par
Renaud Broukis
et Martine Monti, avec à la réalisation Nancy Zautier. Ce soir, nous allons parler de science et du partage des connaissances scientifiques. Avec les crises sanitaires successives que nous avons connues depuis plus de 30 ans, avec les nombreux avertissements lancés par la communauté scientifique internationale sur le réchauffement climatique et ses effets délétères à court terme, ou avec les questionnements autour de la pollution, des OGM, du nucléaire, etc., les questions scientifiques sont au cœur de nombreux débats sociaux et politiques. Chacun y va de ses arguments scientifiques, en général irréfutables, pour justifier des positions et des décisions radicales, parfois contradictoires, voire totalement incohérentes. Et l'on se rend compte que souvent, les idéologies politiques, philosophiques ou culturelles font office de connaissances scientifiques. En fait, le rapport des Français à la science est ambigu. En 2021, une étude dirigée par le sociologue Michel Dubois montrait qu'environ 85% des Français accordent une confiance de principe à la science et aux scientifiques. Mais cette confiance diffère selon les disciplines. Ainsi, si le caractère scientifique de la biologie et de la médecine est une évidence pour la grande majorité des Français, en revanche, celui de l'agronomie est de plus en plus contesté. Sans doute parce qu'elle est perçue comme proche des enjeux industriels et porteuse de risques environnementaux. Aujourd'hui, les accès à l'éducation, à l'information et à la connaissance scientifique sont des enjeux de société qui nous concernent tous, que nous le voulions ou non, pour que nous puissions réfléchir et choisir le monde dans lequel nous voulons vivre. Encore faut-il que nous ayons chacune et chacun l'exigence d'une telle démarche. Pour échanger autour de ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Navarre, président de l'association Science pour tous 06, dont la mission est d'organiser et favoriser la diffusion scientifique sur tout le territoire des Alpes-Maritimes. Mais auparavant, nous prenons le temps d'une pause musicale pour écouter « Né quelque part » de Maxime Le Forestier.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et des oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Endroit
Patrick Navarre, bonsoir.
Bonsoir.
On va commencer d'ailleurs par expliquer le choix de cette chanson que vous avez choisie comme pause musicale avant de vous présenter.
Nous sommes tous nés quelque part. Le problème, c'est le « will » quelque part. J'ai la chance, vous aussi probablement, d'être né en France et d'avoir en tout cas de vivre en France. Mais peut-être que j'aurais pu naître, dans une basse caste d'Inde ou quelque part dans un trottoir pouilleux de je ne sais où et je serais en train de mendier, seul, sur un trottoir. Donc c'est cette injustice-là qui me gêne, qui me frappe, qui me révolte, et cette chanson l'exprime bien.
Donc c'est déjà une manière de vous présenter effectivement au-delà du scientifique, puisque ça sous-tend effectivement vos actions. Au niveau de votre parcours professionnel et personnel, présentez-vous en quelques mots.
Alors moi je suis directeur de recherche émérite au CNRS. Alors émérite, ça veut dire que je suis à la retraite et que je continue à travailler bénévolement. Donc je continue d'animer des travaux de recherche. Donc mon parcours a été le parcours standard d'un chercheur. J'ai fait une école d'ingénieur ou autre, j'ai passé une thèse, deux en l'occurrence même. Et puis j'ai fait des séjours à l'étranger, j'ai habité au Japon, aux États-Unis.
Et la science que vous avez la plus travaillée, c'est la physique.
Alors moi je suis physicien des matériaux et depuis ma thèse, je m'intéresse au plastique. Ou au polymère. On fera peut-être une petite différence autour de ça, j'imagine qu'on va en parler.
On y reviendra peut-être un peu plus tard, oui, pour expliquer ce que c'est. Et donc, à partir du moment où vous avez été à la retraite, ou peut-être avant, vous avez créé l'association Science pour tous 06, ou vous avez intégré une structure qui existait déjà ?
Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Bien avant que je sois à la retraite, j'habite Biote. Donc, depuis très longtemps, j'anime à Biote, tous les derniers jeudis de chaque mois, une rencontre avec un scientifique. Quelqu'un de la région vient présenter ses travaux en, 45 minutes, une heure, et puis une discussion avec le public. Ça a existé depuis assez longtemps. C'était mon village, c'était ma commune, c'était facile pour moi de faire ça. Au bout de quelques années, certains chercheurs m'ont dit « c'est vraiment intéressant ça comme formule. On a un rythme, dernier jeudi de chaque mois, ça attire les gens. Pourquoi on ne pourrait pas l'étendre à d'autres communes ?» Donc on s'est mis à quelques-uns, on a créé une association, et puis on s'est dit, voilà, on va peut-être être une dizaine de chercheurs, on trouve une dizaine de communes, et puis tout va bien. Sauf que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Il y a eu un engouement incroyable. Maintenant, on doit être en 2023, on doit intervenir dans 45 lieux ou communes. C'est pas tout à fait...
Est-ce que vous pouvez préciser, parce que j'ai vu que vous démarchiez ou que vous êtes démarché par d'autres structures que les communes?
Oui, tout à fait. Soit on intervient dans des communes, là c'est le conseil municipal, c'est la ville qui nous invite, soit par des associations. Je prends par exemple Cagnes-sur-Mer. On intervient pour la commune à Cagnes, mais aussi pour l'association des Hauts-de-Cagnes. Voilà, donc on intervient deux fois. Mais on intervient aussi dans d'autres structures, par exemple les deux maisons d'arrêt de Grasse et de Nice. On intervient régulièrement tous les mois, parfois un peu plus qu'une fois par mois dans ces structures.
On y reviendra peut-être un peu plus en détail, mais effectivement, ça élargit la palette uniquement des communes qui vous accueillent. Donc là, vous avez créé Science pour tous, parce qu'effectivement, c'est votre domaine d'action.
C'était le nom initial que j'avais choisi. J'avais choisi pour Biote Science pour tous. Et on a rajouté 06. Parce qu'on était, on était dans le département, plus Monaco.
Et vous savez s'il y a d'autres structures de ce genre en France ou vous n'avez pas encore fait école ?
Alors, il y a évidemment beaucoup d'autres associations ou structures qui s'intéressent à ce qu'on appelle la médiation scientifique, c'est-à-dire aller expliquer aux gens ce qu'est la science, quelques sujets scientifiques, quelques débats scientifiques. Il y a plein d'associations qui font ça. Il y en a qui s'occupent des écoles, comme les petits débrouillards. Il y en a qui interviennent dans les collèges. Il y en a d'autres qui interviennent... Il y a la fête de la science, là, bientôt. C'est maintenant. Donc, à la fête de la science, il y a énormément d'activités autour de ça. Il y a la semaine du cerveau. Il y a beaucoup d'autres structures. Notre spécificité, c'est d'aller partout. C'est-à-dire qu'on intervient dans toutes les communes qui nous demandent et on va très loin.
Oui, quelle que soit la taille,
On intervient dans des communes qui ont 200 ou 300 habitants en fin fond de la RPI. Et il y a pas d'autre. Je pense que c'est. Et on intervient beaucoup. Cette année, on devrait intervenir plus de 300 fois dans l'année. Donc c'est pas mal, sachant qu'on n'intervient pas juillet-août.
Oui, c'est un bon résultat. Et donc justement, par rapport à la science, quel constat faites-vous actuellement sur l'accès à la science ?
Alors,
on parle beaucoup, par exemple, du fait que dans certaines professions scientifiques, on trouve peu de femmes, on trouve peu de personnes de milieux défavorisés qui n'ont pas eu accès à la connaissance. Vous, comment vous situez dans cette démarche? Comment votre association peut aider à un accès à la science?
Alors d'abord, on l'aide de façon assez simple. Hein.
J'arrive
de Monaco, j'ai fait une conférence sur les matières plastiques à Monaco. Bon, il y avait une trentaine de personnes dans la salle, on a pu discuter de ce sujet. C'est ce que nous, on apporte. Ce que l'on fait, c'est qu'on va vers les gens. On va dans les communes, on va dans les maisons d'arrêt, on va dans les associations, et on va parler des sujets qui sont de notre compétence. Bien évidemment, hein, les conférenciers, on a peut-être oublié de dire ça, mais les conférenciers sont tous des chercheurs. La plupart d'entre eux sont en activité dans les Alpes-Maritimes ou Monaco. Quelques-uns, comme moi, sont à la retraite, mais très peu. Donc, on vient parler de la science aux gens. Alors, il faut ramener ça à son niveau. C'est assez modeste dans le sens où on ne touche pas des millions de gens. L'année dernière, on a dû toucher 4 à 5 000 personnes. Cette année, on va peut-être toucher 6 ou 7 000 personnes. Mais si vous prenez un YouTuber qui a 100 000 vues à chaque fois qu'il fait une émission, c'est peu de choses. Mais simplement, il faut être réaliste. Mais ceci étant, on touche les gens.
Mais alors, comment vous définissez la science? Parce que quand j'ai vu votre programme, j'ai été surprise de voir l'histoire, de voir la musique. Moi, je voyais la science pure et dure, les maths, la physique,
la chimie. Les maths et la physique.
Voilà.
Bon, on l'a défini comme toutes les activités intellectuelles qui sont traitées dans les centres de recherche de la région. Donc, ça inclut l'économie, l'histoire, toutes les disciplines des humanités. On n'a pas de restrictions en disant il y a la vraie science et puis il y a l'autre. Quoi. Non, pour nous, tout ça, c'est de la science.
Et justement, est-ce que ce mot science, ça ne peut pas avoir un effet un peu rebutant ou effrayant pour des gens ils n'ont pas une culture de base?
Peut-être. On a cette difficulté d'arriver à, disons, attirer le plus de gens possible. Et quand on regarde le profil des gens qui sont dans la salle, il est vrai qu'on touche assez peu des gens jeunes. D'où notre action à partir de cette année vers les collèges et les lycées.
Alors justement, les collèges et les lycées, moi je ne suis pas du tout scientifique, donc j'ai regardé comment l'éducation nationale définissait l'enseignement scientifique. Elle le définit comme cherchant à développer des compétences générales par la pratique de la réflexion scientifique. Et l'ensemble des disciplines scientifiques concourt à la compréhension du monde, à son organisation, son fonctionnement et des lois qui le régissent. Ça me paraît très beau dans l'esprit. Concrètement, comment on intéresse les gens pour qui la science est quelque chose d'inaccessible?
Accord à côté sur.
Cette définition, elle est très bien. Sauf que nous, on ne va pas prendre la première partie de cette définition. On ne va pas faire des expériences. On n'est pas une structure éducative. Par contre, la deuxième partie, qui est d'intéresser les gens, au monde qui nous entoure et toutes ses composantes. L'histoire s'en fait partie, la musique s'en fait partie, l'astrophysique aussi. C'est notre mission. On essaie de faire en sorte que le public qui vient, qu'on arrive à toucher, eh bien, ils deviennent intéressés par tel ou tel sujet. C'est pour ça que quand on fait la programmation d'une année, généralement, on fait une programmation janvier, juin, puis septembre, décembre. On essaie que dans chaque lieu, chaque commune, il y ait une programmation la plus diversifiée possible. On va parler d'histoire, on va parler de physique, on va parler de maths, on va parler de parfum, on va parler de cannabis, on va parler de je sais pas quoi, mais on va varier les sujets. Mmh. Donc les sujets sont variés. Après, comment faire en sorte qu'on remplisse des salles de 500 personnes, ça on n'a pas trouvé le truc encore.
Est-ce que c'est vraiment votre but aussi?
Non, c'est pas forcément notre but, mais enfin, faut être clair, plus il y a de gens qui nous écoutent, qui viennent nous voir, mieux c'est, plus on touche de public. Mais généralement, tous les échos que j'ai, y compris les miens, mais bon, tous mes collègues ont la même impression, c'est qu'une fois que vous avez parlé de votre sujet, il y a des myriades de questions. Il faut généralement, au minimum à Biote, parce que c'est moi qui m'en occupe, je suis obligé de pousser les gens dehors, parce qu'il y a une heure limite, parce qu'après, derrière, il y a un groupe de musique qui répète. On est obligé de pousser les gens dehors et puis continuer à discuter sur le parking, parce que c'est passionnant. Tous les sujets sont passionnants.
Oui, j'imagine. Alors justement, moi, ce qui me semblait difficile, parce que je n'ai jamais assisté à une de vos conférences, mais j'y m'y rendrai, par rapport à ce que vous souhaitez faire, est-ce que vous vous reconnaissez dans les mots de vulgarisation, partage de connaissances, éveil des consciences. Qu'est-ce que c'est la culture scientifique ?
C'est tout ça, bien sûr. Hein, on va partager des connaissances. Je vais reprendre à nouveau mon cas, j'en suis désolé, mais mon cas de tout à l'heure, j'ai parlé de matière plastique. C'était le sujet de ma conférence, les matières plastiques, faut-il en avoir peur ? Les matières plastiques, les avantages, les inconvénients. La première question que j'ai posée, que je pose toujours, c'est « Pour vous, c'est quoi une matière plastique ?» Il n'y avait personne qui a su répondre. Vous voyez, donc ça a commencé comme d'habitude, il n'y a jamais personne qui sait répondre. Donc vous pouvez poser ça à n'importe quel niveau, il n'y a jamais personne qui sait répondre. C'est intéressant, on parle de notions dont on parle tous les jours dans les journaux, matière plastique, le fléau des matières plastiques, à juste titre, souvent, et finalement personne ne sait ce que c'est. C'est rigolo quand même. Donc on sert à ça. Alors je vous parle des matières plastiques parce que c'est ce que j'ai vécu il y a quelques heures, mais on pourrait parler d'astrophysique, de vie en dehors de la Terre, de tremblements de terre, je pense à des volcans dans les Alpes-Maritimes, ou tous ces sujets, finalement, on en a pour la plupart du temps une culture très approximative, si on en a une, et très très déformée. Après, vous êtes face à des gens, ceux qui travaillent sur le sujet depuis des années souvent, qui ont une connaissance approfondie de tous les enjeux qui sont autour. Et là, on va pouvoir les partager, on va pouvoir répondre la plupart du temps aux questions qui vont se poser et que les gens se posent. Et on va essayer de répondre le plus honnêtement, le plus simplement, le plus correctement possible. C'est ça, éveiller les consciences. C'est ça, faire en sorte qu'on transmette un peu de notre connaissance. Je dirais, en étant un peu bref, je suis payé par vos impôts. C'est normal que moi, j'essaie de renvoyer aux gens qui me payent un petit peu de ce que j'ai appris grâce à leur argent.
Mais au-delà, cette prise de conscience, pour moi, elle implique que les gens s'éveillent à des connaissances qu'ils n'ont pas, mais pour répondre à certains enjeux, ou pas.
Oui ou non, oui,
parfois. Parce que par rapport au plastique, il peut y avoir après des comportements, des modifications de mode de pensée.
Alors ça, c'est vrai. Sur ce sujet-là, un petit peu, notamment je parle de recyclage, où on remet un petit peu les pendules à l'heure sur le sujet, ou de bioplastique ou autre, ça c'est vrai que ça permet aux personnes qui m'écoutent, bon, à la limite de se poser des questions sur le sujet. Voilà, peut-être pas forcément dire que je donne les réponses, au moins de se poser des questions. Il y a d'autres sujets qui sont peut-être un petit peu différents, si on pense à des sujets d'histoire, c'est un petit peu différent. C'est plus de la curiosité scientifique, mais qui parfois peut rebondir sur des questions très pratique actuelle, mais pas forcément. Je pense à d'autres domaines.
Je pensais à la conférence sur l'immigration italienne aux Alpes-Maritimes. À partir de l'histoire ancienne, ça peut quand même amener les gens à se poser des questions sur les phénomènes migratoires actuels.
Ben ça, évidemment. Évidemment. Ça, c'est bien clair. Mais je ne suis pas certain que toutes les conférences amènent à des réflexions, je dirais, profondes sur la façon dont on est, la façon dont on se comporte. C'est pas obligatoire, mais ça peut. La plupart probablement, mais pas forcément, pas toutes.
Et nous avons évoqué à travers les objectifs et la mission de votre association, les lieux où vous intervenez. Donc on peut revenir un petit peu sur la notion d'intervention dans les prisons. Vous le faites comme un certain nombre de prestataires.
Bien sûr.
Mais c'est à la demande des détenus.
Alors non, ça ne se passe pas exactement comme ça. C'est à la demande du service de probation et d'insertion professionnelle qui a pris... Alors je ne sais plus historiquement, est-ce que c'est nous qui avons pris contact avec eux ou eux qui ont pris contact avec nous ? Je suis désolé, j'ai oublié. Mais dans quel que soit l'ordre, on a regardé ce qu'on pouvait faire ensemble et ils ont trouvé ce service que ça pourrait être intéressant de proposer aux détenus des conférences scientifiques, les mêmes, on fait les mêmes que l'on fait ailleurs, on ne les prépare pas spécialement pour eux. Et puis alors là, après, ce n'est pas les détenus qui demandent, je suis à peu près certain, il y a une annonce qui est faite, et les détenus s'inscrivent ou pas, c'est leur choix. Il y a généralement entre 20 et 30 personnes qui viennent, qui sont intéressées à peu près en moyenne sur chaque conférence, et ça génère tout un tas de discussions, les mêmes qu'on pourrait trouver vous êtes là, le cadre est un peu stupéfiant, le cadre est étonnant, mais après, le reste, c'est des gens comme vous et moi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différence sur les questions, sur les enjeux, sur les questionnements, c'est pareil, ouais, bien sûr.
En fait, votre public, il est demandeur, entre guillemets, il est volontaire, donc il est très diversifié, en fait.
Ah, complètement, complètement. Quand on va quelque part pour faire une conférence, on n'a pas d'idée préconçue sur qui est dans la salle. Alors, parfois, ça peut être un peu polémique. Hein. Je me souviens d'une conférence sur les vaccins, où effectivement, il y avait un certain nombre d'activistes anti-vaccins dans la salle. Il a fallu que je... C'est moi qui ai animé la... C'est pas moi, je ne suis pas un spécialiste des vaccins. Il a fallu que je mette tout mon poids pour qu'on laisse parler l'orateur. Et oui. Que ce ne soit pas sans arrêt coupé par des questions, qu'on laisse les questions, comme d'habitude, à la fin, pour discuter de... Si ces gens-là n'étaient pas d'accord avec ce que disait l'orateur, très bien, ils n'étaient pas d'accord, ils ont le droit de ne pas être d'accord. Je me suis fait embêter une fois par tout un groupe de gens qui m'ont demandé qui finançait ma recherche. Comme tout chercheur, ou la plupart, la recherche, elle est financée par différentes sources de l'État, tout simplement. Hein. Il y a des bourses pour faire de la recherche, il y a des agences de l'État qui financent de la recherche, mais il y a aussi des industriels qui financent de la recherche, ce qui est mon cas parfois. Et donc, ils m'ont dit, mais à ce moment-là, ce que vous nous dites là, vous le dites simplement parce que vous répétez ce que les industriels vous ont demandé de dire. Et là, voilà, donc il faut expliquer comment ça marche. C'est le rôle. On a beaucoup de questions sur la recherche, ça marche comment ? Parce qu'en fait, c'est une sorte de boîte noire pour les gens. Le seul moment où ça n'a pas été une boîte noire, c'était la Covid. Où là, on a vu le plus mauvais côté médiatique de la science. Quand vous avez un nouveau sujet scientifique, la Covid, c'était voilà, un nouveau sujet, hein, un virus que personne n'avait trop vu, on ne sait pas quoi en penser, dangereux, pas dangereux, on fait quoi ? Voilà, qu'est-ce qu'on faut faire ? Donc, quand on est dans un enjeu comme ça, mais qu'un enjeu pour la Covid, mais qu'un enjeu pour n'importe quel sujet scientifique que je traite ou que mes collègues traitent, ben vous avez 20 chercheurs dans la salle, vous avez plus ou moins 20 opinions différentes. Hein. Les gens, ils ont leur avis sur le sujet. Ah ben moi, je pense que c'est plutôt ça. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Tant qu'on n'a pas vraiment creusé le domaine, tant qu'on s'est pas mis d'accord sur faire des expériences, on a tous nos idées préconçues et on essaie d'en discuter. Mais on en discute généralement en dehors des caméras. Et puis, peu à peu, un consensus va venir. On va se dire, bah, tiens, cette idée que j'avais, bah, non, là, il y en a trois qui montrent que c'est n'importe quoi. Donc, cette idée, on l'oublie et on avance comme ça. Le problème, c'est que si vous mettez ça direct sous les projecteurs, moi, ma famille, ils me disaient, mais alors vous, les scientifiques, vous n'êtes jamais d'accord. Bah, c'est sûr. Vous demandez à 5 chercheurs, ils ont 5 avis différents. Ah oui, il faut confiner, il ne faut pas confiner, il faut confiner longtemps, il ne faut confiner pas longtemps, il faut mettre tel vaccin, non, plutôt celui-là est le meilleur. Mais c'est normal qu'il y ait ces questionnements face à un nouveau problème. L'erreur, ça a été de mettre ça sur la place publique. Et là, les gens, ils sont perdus. Ils se disent, mais alors, ces chercheurs, ils ne sont jamais d'accord.
Oui, ça peut être déstabilisant.
Ah, mais c'est très déstabilisant. Ça peut pas être. C'est très déstabilisant. C'était un problème majeur. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles, comme ça a été souligné tout à l'heure, il y a une sorte de méfiance des gens vis-à-vis de la science. Et il y a des chiffres plus récents qui montrent que c'est un peu plus que ça. Les gens sont assez méfiants. C'est aussi lié à cette exposition médiatique effrénée sans queue ni tête. Puis alors, évidemment qu'il y a tout un mécanisme pour que la science avance. L'un des mécanismes, c'est de publier des articles. Mm-hmm. Ces articles sont publiés, sont revus par d'autres chercheurs, qui valident ou qui ne valident pas. À la fin, l'article est publié. Mais ça ne veut pas dire qu'il c'est vrai ce qui est dedans. C'est juste qu'il a passé 2 ou 3 filtres, il a réussi à les passer sans problème, et c'est publié. Mais là, à l'époque de la Covid, on balançait dans la nature des articles scientifiques non validés. Ça avait été relu par personne que celui qui l'avait écrit. Donc après, c'est pas étonnant que certains se sont rétractés, en disant, ben non, finalement, je me suis trompé de bonne foi. Hein. C'est pas de la triche, mais on peut se tromper. Moi, je me suis trompé dans mes articles. J'en ai écrit, oui, je sais pas, 200, et j'ai dû en avoir 2 ou 3 où il y a des erreurs dedans, c'est
la
sûr.
La communication hein. était trop hâtive.
C'était plus qu'hâtive.
Alors justement, par rapport à la pédagogie dans vos conférences, comment se déroule une de vos conférences ? C'est un exposé, vous avez évoqué le temps des questions-réponses. Est-ce qu'il y a des mémos qui sont remis ?
On a un système le plus simple possible pour éviter que ça soit le plus contraignant possible pour les conférenciers. Les conférenciers, ils ont plein de trucs à faire. Ce sont des gens qui sont hyper occupés, ils ont des étudiants, il faut qu'ils s'occupent de donner des cours, il faut qu'ils organisent 1 million de choses dans leur université ou dans leur centre de recherche, donc ils sont très sollicités. Donc on fait les choses les plus simples possibles, les plus simples qu'on peut faire, le niveau zéro de ce qu'on peut faire, si j'ose dire, c'est juste de faire une conférence, qui est très compliquée à préparer. Préparer une conférence de telle sorte que quelqu'un qui n'a pas de bagage scientifique, qui ne connaît pas le sujet, soit capable de comprendre, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je peux vous assurer que c'est beaucoup plus compliqué que de préparer une conférence scientifique pour un congrès sur vos sujets.
Mais c'est vous avez compliqué. donc des affichages
Alors, les conférenciers préparent leur conférence, leur sujet, ils peuvent en avoir plusieurs. À partir de là, ils vont juste simplement utiliser ces supports pour parler, ou pas de support. Par exemple, l'immigration italienne dont vous parliez, le conférencier n'a pas de support, il parle sans support. Voilà, il fait ça très bien. Ben, c'est pas besoin d'avoir un support. Dans mon domaine, à moi, on a un support pour expliquer ce que c'est.
Il y a
des matières, c'est plus simple d'avoir un support. Voilà. Donc après, le mode de fonctionnement de l'association, c'est nous intervenons gratuitement, bénévolement, à charge de la commune de s'assurer de nous fournir une salle équipée, donc la logistique qui va bien, à charge aussi de faire la communication locale. Nous sommes incapables de faire la communication locale.
Ça allait être ma dernière question.
Moi, je ne sais pas faire la communication locale à Saint-Martin-Vésubie.
Ma dernière question à la pause musicale. Quels moyens utilisez-vous pour communiquer ? Parce que une fois qu'on a le nom de votre association, votre site est très explicite. Par contre, pour avoir l'information sur vos conférences, dans les communes...
Il faut cliquer sur la commune.
Oui, voilà. Mais les communes...
Deux façons. On n'a pas beaucoup de raisons d'être visible à Mandelieu pour les conférences de Tende. Par contre, on a beaucoup besoin d'être visible à Mandelieu pour les conférences de Mandelieu et à Tende pour les conférences de Tende. Donc les organisateurs locaux, on les appelle comme ça, communes, associations, quel que soit, s'engagent à faire la communication locale. Nice Matin local, le correspondant local, tous les outils de communication de la commune doivent être mis en branle pour que ça soit connu. Le petit journal communal, moi j'en sais rien, chaque commune ou chaque lieu a ses outils de communication. Nous, on est incapables de faire la communication locale, d'abord et parce qu'on n'est pas bon en communication, parce que ce n'est pas notre boulot, je ne suis pas chercheur en communication, moi. Et en plus, on n'a pas accès, nous, localement. Moi, à Saint-Martin-Vésubie, comment je fais la communication de Saint-Martin-Vésubie ou de Venançon ou de Val-de-Blore, pour prendre juste trois communes qui sont où on intervient, qui sont côte à côte dans la vallée de la Vésubie. Moi, on n'a pas, c'est à eux de le faire.
On rappellera donc bien les coordonnées de votre site en fin d'émission.
Alors, je peux terminer, juste un point.
Oui.
On a une newsletter sur laquelle on a des centaines d'abonnés. Ça, c'est un outil extrêmement, je pense, très performant. Le 20 de chaque mois, on envoie la petite newsletter qui donne les conférences du mois d'après.
Voilà, demander en s'inscrivant sur votre site.
Sur notre site.
Voilà, une petite pause musicale avec Ti Amo d'Umberto Tozzi.
Soldo ti amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. Io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa, ti amo, rendimi l'altra metà, ti amo, oggi ritorno da lei, ti amo, primo maggio, coraggio, io ti amo e chiedo perdono, ricordi chi sono, apri la porta, guerriero di carta igienica e dammi il tuo vino leggero, che hai fatto quando non c'ero, e le lenzuola di lino,
di fare l'amore. Vesti la rabbia di pace e sottare sulla luce.
Nous sommes sur Agora Côte d'Azur et nous poursuivons le thème de notre émission de ce soir de Parlons des droits humains, consacré à la science pour tous, partager la science, en compagnie de Patrick Navarre, président de l'association Science pour tous 06. Donc Patrick Navarre, en première partie, vous nous avez présenté d'abord brièvement votre cursus, ensuite l'association, ce que vous faites, ce que vous présentez, les partenaires avec lesquels vous intervenez, on n'y a pas encore, fait écho. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous fonctionnez? Bon, vous nous avez dit que vous aviez des contacts avec les communes, un certain nombre d'établissements scolaires, pénitentiaires, etc. Mais comment est-ce que vous fonctionnez en termes, je dirais, de nombre de participants, d'adhérents qui interviennent, en termes de partenaires locaux, en termes de financement également?
Alors, on va parler du financement, parce que c'est la dernière question. Ça, c'est facile et très... Voilà. Donc, les conférenciers sont bénévoles. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'ils vont quand même payer sur leur propre denier le fait de se déplacer. Alors, quand il s'agit d'un Niçois faisant une conférence à Nice, ça va. Mais si vous faites une conférence loin, ça a un coût. Ça peut avoir... L'hiver, vous êtes peut-être obligé de passer une nuit d'hôtel... de prendre une nuit d'hôtel dans l'arrière-pays parce que y a du verglas, parce que je ne sais pas, parce que c'est compliqué de redescendre. Donc, les frais de déplacement sont couverts intégralement par deux subventions. Une très grosse subvention, enfin très grosse, c'est la majeure partie, hein, du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui nous a suivis dès le début, en nous faisant absolument confiance. Quand on allait les voir, on leur a expliqué ce qu'on voulait faire et ils nous ont dit « Ok, ça marche, nous ça nous plaît ». Et on n'avait jamais rien fait. Hein. C'est juste qu'on leur a dit ce qu'on voulait faire. Et ils nous ont fait confiance. Et donc, là, on a un financement du conseil départemental qui nous permet de couvrir très largement tous les frais de déplacement et une subvention aussi de l'Université Côte d'Azur. Voilà, ce sont nos deux seules rentrées d'argent. Mais ça nous suffit. Avec ça, on paye deux choses. La première, ce sont les frais de déplacement des conférenciers, ça c'est la majeure partie du budget, mais aussi tout l'aspect communication. On a parlé tout à l'heure de la communication locale, mais on a aussi une communication un petit peu générique, et donc on a un suivi sur les réseaux sociaux, on a un prestataire qui s'occupe fort bien du site web, etc. Ça c'est pas nous qui faisons ça. Il y a des pros pour faire ça, des gens qui font ça très bien, et ben on les paye, donc on les paye avec cette subvention. Donc financièrement, on n'a pas de problème. On est suivi par le conseil départemental, qui, je pense, a vu assez rapidement l'intérêt qu'on avait, hein, qu'il y avait à aller dans ces lieux. Ah, bien sûr, on intervient sur la côte, on intervient à Nice, on intervient à Antibes ou à Cannes, mais d'aller dans des petites communes pour parler de science. Donc ça, c'est pas une difficulté, je dirais. On n'a aucune difficulté pour ça.
Donc vous avez deux bailleurs de fonds principaux, oui. Et vous avez également des partenaires scientifiques, parce que qui dit science dit nécessairement des liens ou des relations avec des grands organismes de recherche. Vous avez cité l'université, mais vous avez également le CNRS, l'INSERM, l'INRAE,
etc. Alors, on a des relations indirectes. On n'a pas un partenariat avec eux. mais on a une relation indirecte. Si un chercheur d'un de ces instituts intervient le jeudi après-midi à Menton, clairement, il prend ça sur son temps de travail. Ça fait partie de sa, ça fait, la médiation scientifique, c'est une de nos missions en tant que chercheur. Donc il va faire ça sur son temps de travail. Ça veut dire qu'il va être, de fait, payé par l'organisme en question. Donc le, je dirais, le, la relation, elle est là. Sur notre site, il y a nos partenaires, qui sont les partenaires bailleurs de fonds, et puis il y a nos soutiens. Les soutiens, ben, ce sont tous les organismes, le CNRS, l'INRA, l'INRIA et tous les autres, qui, de fait, ben, nous permettent, enfin, permettent aux chercheurs de partir faire ses missions de médiation.
D'accord. Donc, et en tant que président, justement, de l'association, est-ce que vous validez préalablement les interventions de chacun des scientifiques qui intervient? Est-ce qu'il y a une garantie, je dirais, d'abordabilité, je dirais, de niveau de conférence au niveau grand public, ou est-ce que ça risque de voler très haut?
Alors, il y a différents moyens pour repérer les dérapages qui peuvent parfois exister, qui ont très rarement... On a eu très peu de problèmes. Il y a eu quelques problèmes avec quelques conférenciers qui soit parlaient de sujets qui n'étaient pas leur spécialité, soit parlaient avec un langage qui n'était pas compréhensible par monsieur et madame tout le monde. Donc, dans ces quelques très, très, très rares cas, il y en a deux ou trois, on a discuté avec les conférenciers et voilà, ça s'est arrangé d'une façon ou d'une autre.
Certains sont partis. Excusez-moi, je pense que c'est un point très important parce que lorsque l'on veut rendre l'accès à la science pour tous, y compris par les gens qui n'ont pas forcément de bagage scientifique, il est extrêmement important de pouvoir vulgariser pour aider les gens à comprendre, à s'intéresser et à réfléchir à partir de ça.
On a un conseil d'administration, donc des membres, qui de temps en temps vont assister à des conférences et je demande un retour, toujours, de l'organisateur local. Je demande toujours comment ça s'est passé. Voilà, j'ai besoin de ce retour. Bien sûr, moi, je ne les connais pas, les conférenciers, personnellement. Quelqu'un vient, un chercheur me dit « Ça m'intéresse, votre association, je viens. » Ok, on est tout content d'avoir un nouveau conférencier. Mais ce conférencier, moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il fait pour, face à un public de gens qui ne connaissent rien dans ce qu'il va raconter. Dans 99,9% des cas, il y a zéro problème. Ils sont capables de... Je n'ai que des éloges. Il y a eu quelques couacs, mais très peu, en fait.
Donc, vous avez des retours a posteriori.
J'ai des retours a posteriori. Bah, avant, je ne peux pas savoir. Mais j'ai des retours a posteriori, toujours. Oui, je demande toujours comment ça se passe. Et on n'a pas de soucis particuliers, hein, bien sûr.
Donc, actuellement, vous comptez sur la présence de combien de scientifiques qui sont prêts à faire des conférences
Là, je peux vous dire, on est à peu près 90. Et on est trop peu.
Donc, 90 intervenants pour environ, vous nous avez dit, 300, 350 conférences.
Voilà, alors ça, c'est une difficulté, parce que tous les ans, ça augmente. Tous les ans, on a de nouvelles communes qui arrivent. Et... Pour 2024, mon travail en tant que président, c'est de recruter de nouveaux conférenciers. Il faudrait facilement qu'une 20 ou 30 nouveaux viennent, parce que je suis quasi certain, si on regarde la tendance, que ce n'est pas 300 conférences qu'on va organiser l'année prochaine, mais 350, peut-être plus. Et donc, la pression sur les conférenciers est forte. Donc, il faut que nous recrutions.
Donc, c'est un message à faire passer en fin d'émission.
Il y a plusieurs milliers de chercheurs dans les Alpes-Maritimes et à Monaco. Quand même, on devrait être capable d'en attirer 150. Hein. Ça serait bien.
Et ben voilà un bel objectif. En tout cas, donc, c'est votre projet pour l'année,
mais là, c'est le projet. On a le, si vous voulez, en termes de projet, bien, va démarrer dans quelques semaines, hein. Dans quelques jours, la programmation janvier-juin. Ça, c'est, je dirais, c'est traditionnel. Tous les ans, au mois d'octobre, on fait la programmation. Ça, c'est beaucoup de boulot parce que c'est compliqué d'arriver à mettre ensemble les différents sujets dans les différentes communes, que tout le monde, que tous les conférenciers aient quand même et puissent parler. Et, si vous voulez, ce que je comprends, les communes, les gens qui organisent, ils se disent « Ah, j'ai le sujet, les 200 sujets là, je les regarde ». Ils sont tous intéressés par les mêmes choses. Développement durable, Alzheimer, c'est dans la région, hein, Alzheimer, ça a beaucoup de succès. C'est comme ça. l'astrophysique un peu, hein, est-ce qu'il y a des petits bonhommes verts hein, qui habitent un peu plus loin, là, ça c'est intéressant. Enfin, là, il y a deux ou trois sujets comme ça qui sont très porteurs. Tout le monde les demande. Mais moi, on ne peut pas faire 300 conférences avec juste 10 conférenciers, quoi. Ça ne va pas le faire. Et puis, ce n'est pas intéressant de faire ça. Ce que j'explique c'est que, à tous ces gens, c'est que ce n'est pas intéressant de faire ça. Ce qui est intéressant, c'est de varier. Faire un coup de la musique, un coup de l'astrophysique, un coup de la chimie, un coup des parfums. Voilà, ça, c'est intéressant. Un peu d'histoire. On a quelque chose de varié et on a une offre variée qui donne un panorama de la science. Donc, voilà. Donc ça, c'est une mission, un projet, vous appelez ça comme vous voulez, une occupation. Tous les ans, c'est comme ça au mois d'octobre, et puis ça va être comme ça au mois de juin pour préparer l'après. Ça, c'est la routine, entre guillemets. Par contre, le projet un peu particulier pour l'année prochaine, qui me tracasse en tant que président, c'est que je pense qu'on n'est pas assez nombreux, et il va falloir que nous trouvions des moyens de présenter Science pour tous aux chercheurs de la région pour tenter de les convaincre que c'est important qu'ils viennent devant le public pour parler de ce qu'ils font. Mais certains n'ont pas envie, certains ne se sentent pas de le faire. J'ai des collègues qui me disent « Moi, je me sens pas de faire ça. Ça me fait peur de faire ça, je veux pas le faire, je me sens pas de le faire. » D'autres sont extrêmement occupés. J'ai des collègues qui étaient très actifs et qui me disent « Attends, moi, je peux plus. Je viens de prendre la direction de mon laboratoire de recherche. Moi, ça va, je travaille 15 heures par jour, je vais pas faire des conférences scientifiques. » Puis certains partent en mission. Les archéologues sont terribles pour ça. Et ils partent 6 mois en Sibérie pour creuser je ne sais pas quoi. Donc, je ne les ai plus sous la main. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais c'est passionnant.
D'où l'intérêt des partenariats, justement, avec les grands organismes de recherche.
Bien sûr.
Pour pouvoir avoir ces contacts avec les chercheurs, les scientifiques de manière générale.
Tout à fait.
Justement, on va profiter du fait que vous êtes là pour revenir un peu sur le sujet qui vous tient à cœur et développer quelques instants. Vous nous avez dit que vous avez travaillé pendant de nombreuses années sur les plastiques et les biopolymères. Est-ce que vous pouvez nous donner la définition de ce que c'est qu'un polymère, déjà, tout simplement ?
Un polymère, alors ça, c'est plus facile qu'un plastique pour les gens. Un polymère, c'est une molécule qui est composée de la répétition d'un très grand nombre de fois d'un même groupe d'atomes. Alors, je vais dire ça plus simplement. Vous prenez du polyéthylène. Tout le monde sait qu'il y a du polyéthylène qui traîne. Le polyéthylène, la formule, c'est CH2, c'est-à-dire un carbone avec deux hydrogènes. Ce petit groupe-là d'atomes, CH2, eh bien, vous l'accrochez à un autre CH2, vous l'accrochez à un autre CH2, vous l'accrochez à un autre CH2. Ça fait une longue chaîne de CH2. Et cette longue chaîne qui est accrochée solidement forme une seule et même très longue molécule. C'est ça un polymère. Il y a polymère, il y a poly pour plusieurs fois le même groupe d'atomes. Alors CH2, c'est super simple, il y en a des plus compliqués, évidemment. Notamment dans la nature, ils sont redoutables. Là où il y a le plus de polymères sur Terre, c'est dans les bois, c'est dans la nature, il y en a de partout. On est, pour des raisons qui sont là, très compliquées, un peu compliquées à expliquer comme ça au micro en 3 minutes, mais il y a des polymères partout. Et les chimistes ne savent pas synthétiser le plus courant des polymères, qui est la cellulose, qu'on trouve, c'est le coton, c'est ce qui est dans les troncs d'arbres, dans les tiges de plantes, mais on ne sait pas le synthétiser, on est obligé de l'extraire. Et là, le petit groupe d'atomes qui est accroché les uns derrière les autres pour faire la longue chaîne est plus complexe. Tout ça, c'est un polymère. Mais ça, ce n'est pas un plastique.
Et alors, le lien entre plastique et polymère ?
La définition, elle est standard et elle est toujours la même, quelle que soit l'ONU, la Commission européenne, les États. Un plastique est composé d'un polymère et d'additifs, c'est-à-dire de petites molécules qu'on rajoute au polymère pour que l'ensemble, polymère plus additif, donc ce plastique, ait une fonction donnée. Typiquement, vous faites des voitures, vous voulez un pare-choc, vous voulez le pare-choc bleu, il va falloir faire un plastique qui soit bleu, donc il va falloir rajouter des additifs qui sont bleus, mais vous voulez que le pare-choc il tienne un choc à 30 km/h, je crois que c'est la réglementation, il va falloir ajouter là-dedans des dispositifs anti-choc, et puis il faut aussi que, si j'ose dire, il tienne la route pour un pare-choc l'hiver en Sibérie ou l'été au Tchad. Donc voilà, il faut que l'association du polymère et des additifs soit telle que l'ensemble réponde à un cahier des charges. Et donc, chaque plastique que vous avez autour de vous, et il y en a partout autour de nous, est composé d'un polymère, généralement un seul, parfois deux, mais souvent un, et de quelques additifs, 2, 3, 4, 5, qui sont entre 2 et 20% de la masse du plastique. Ces additifs sont indispensables pour que le plastique, la pièce, eh bien, réponde à la fonction pour laquelle elle est faite.
Alors, vous nous dites, plastique, il y en a un peu partout dans notre vie. Alors, quand on pense à plastique, on pense d'abord à bouteilles plastiques. Vous nous avez cité le cas des pare-chocs. Est-ce que vous avez d'autres exemples de plastique qui nous environnent au quotidien?
Alors, on va prendre la mer. On n'est pas loin de la mer, là. Hein, on va prendre la mer comme exemple. On parle beaucoup de la pollution plastique dans la mer. Et c'est vrai que derrière la tête, on a l'image des sagouins, des gens sans foi ni loi, qui balancent des sacs plastiques, des bouteilles plastiques dans l'eau et qui vont polluer la mer Méditerranée. C'est une image un peu fausse. Parce que ceux qui polluent, vraiment, c'est nous. Nous, tous les jours. Alors je vous explique. Un plastique, c'est un polymère avec des additifs. Ça comprend quoi? Nos vêtements. La plupart de nos vêtements, sauf si c'est du coton ou du lin, sont des matières plastiques. C'est-à-dire c'est un polymère qui a été filé, dans lequel on a mis des additifs pour que voilà, votre chemise, elle a des petits dessins roses, la mienne, elle est verte. Hein. Les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais je peux leur certifier que c'est bien comme ça. Et donc, c'est une matière plastique, au sens de la définition. Et ces petites fibrilles extrêmement fines, qui font quelques dizaines de millièmes de millimètres, quand vous les lavez, parce que nous lavons nos vêtements, ça va passer à travers tous les filtres et ça va se retrouver où? Dans la mer. 10-15% de la pollution des mers, c'est pas les sagouins qui balancent les bouteilles plastiques, c'est nous qui lavons nos vêtements. Mais les pneumatiques de voiture, c'est quoi un pneumatique? Bah, c'est un caoutchouc. Un caoutchouc, c'est quoi? C'est un polymère. Soit le caoutchouc est naturel, ça provient de l'EVA, mais c'est bien un polymère. Et soit on fait du caoutchouc synthétique, toujours des polymères, et on va rajouter plein d'additifs. Là, on en rajoute des paquets. Notamment, le pneu, il est noir, parce qu'on a mis du noir de carbone, pour des tas de raisons liées à la tenue de route, etc. Mais on change nos pneus. 300 millions de pneus sont changés en Union européenne tous les ans. 300 millions. Et pourquoi on change nos pneus? On ne les change pas uniquement parce que si on se fait attraper par la police, on va avoir une amende, parce que le pneu, il est lisse. On les change parce que ça tient mieux la route quand on a un pneu qui est bien fait. Mais la bande de roulement qui a disparu pendant l'usage, elle est passée où, elle? Elle est passée dans la mer. 20-25% de la pollution des océans, c'est nos voitures. C'est nous qui sommes responsables, hein, à nouveau. Les peintures et les vernis sont des plastiques. Vous prenez une peinture, c'est un polymère qui est en solution dans l'eau maintenant, la plupart du temps. Vous prenez votre rouleau, vous montez le rouleau jusqu'en haut de la pièce, et vous avez dû remarquer, quand vous enlevez le rouleau, la peinture ne redescend pas en bas. Alors qu'elle s'est c'était très facile à la mettre. Et d'un seul coup, vous enlevez le rouleau, elle ne retombe pas. C'est bourré d'additifs pour qu'on règle l'écoulement de cette substance de telle sorte qu'elle ne retombe pas en bas. L'eau va s'évaporer, il va rester un film plastique.
Alors vous parlez d'évaporation de l'eau, il n'y a pas que dans la mer que ces plastiques disparaissent. Alors, il y en a également dans l'air, il y en a également dans le sol.
Alors j'ai parlé de la mer parce qu'on est près de la mer, c'est ça que on en parle beaucoup de la pollution plastique dans les mers ou dans les océans. Mais on n'en parle pas trop dans l'air, dans les eaux de surface et dans les sols. Et c'est très grave, là aussi.
Quels sont les dangers de ces polymères, de ces plastiques?
Essentiellement, à mon sens, ce sont les additifs qui sont dedans. Si vous prenez du polyéthylène, c'est pas extraordinairement dangereux, CH2, CH2, CH2N fois. C'est pas très dangereux en tant que... C'est pas très toxique. Par contre, les additifs qui sont dedans le sont. On évalue à plusieurs milliers, 4-5 000, le nombre d'additifs possibles que l'on peut mettre dans un plastique. Parce qu'il va falloir ajuster le plastique. Il n'y a pas beaucoup de polymères, en fait. Il y en a quoi qu'une dizaine de grandes classes de polymères. Par contre, il va falloir, avec cette dizaine de grandes classes, faire tous les objets qui nous entourent. Le siège sur lequel, probablement, les gens qui nous écoutent sont assis, les peintures à leur mur, leur ordinateur. Voilà, tout ça, c'est bourré de polymères plus des additifs. Donc il y a plusieurs milliers d'additifs, des milliers d'additifs. Et beaucoup, leur toxicité, elle n'a pas du tout été étudiée. Elle n'est vraiment étudiée que pour les plastiques en contact alimentaire ou les plastiques qui seront en contact avec le corps humain. Hein, si on vous met dans le corps des tubulures ou n'importe quel objet en plastique, il y a un contrôle assez subtil, assez fort pour savoir ce qu'on met dedans. Mais encore, si on prend par exemple les barquettes ou autres pour les aliments. Si vous voulez, il y a quelque chose qui est très inquiétant sur les additifs. Il y a les additifs qu'on met Et il y a les produits chimiques qu'on n'a jamais mis, mais qui y sont quand même. Alors, j'ai essayé d'expliquer pourquoi. Supposons que vous preniez un plastique, mettons du polyéthylène, vous mettez un, deux ou trois additifs. Comment vous les mettez ? Vous êtes obligé de chauffer, de mélanger. Pendant ce chauffage et ce mélangeage, il est possible que les additifs fassent des réactions chimiques incontrôlées, que vous ne pouvez pas éviter, que vous ne savez pas éviter. Et donc, ces produits qu'on peut appeler des produits hérités sont présents sans que vous les ayez contrôlés. Je me souviens du CHU de Nice qui, j'en appelle et me disent, voilà, sur la barquette là, qu'on donne aux gens qui sont malades, il y a marqué, nous certifions, enfin, l'entreprise certifiée, qu'aucun perturbateur endocrinien n'avait été ajouté au plastique. Qui certifiait qu'aucun des produits qui avaient servi à fabriquer la barquette ne contenait des perturbateurs endocriniens. Donc ils me disent, donc c'est bon, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens. Ah, je leur dis, vous, non. Il est dit qu'il n'y en a pas qui ont été mis volontairement. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas eu des réactions chimiques qui en ont créé ? Et ça, on ne peut pas savoir. Donc, si vous voulez, cet aspect additif m'inquiète énormément.
Oui, c'est assez inquiétant ce que vous nous dites là. On a l'impression qu'on joue aux apprentis sorciers en manipulant des molécules.
Un petit peu, bien sûr. Ces additifs sont potentiellement très dangereux. Certains le sont très dangereux. Je vous donne un autre exemple. J'ai regardé vous savez, le PET, le polyéthylène terephthalate, c'est le polymère qui sert à faire les bouteilles d'eau. Mmh. Il y a une réglementation de plus en plus stricte au niveau français et au niveau européen pour ajouter du PET recyclé dans les bouteilles. Il va falloir mettre de plus en plus de PET recyclé. La question qui se pose, c'est le PET recyclé, est-ce qu'il est aussi inoffensif que le PET qui vient d'être fabriqué à partir du pétrole ? Et si vous les analysez ce qu'il y a dedans, eh bien, on peut en douter beaucoup. On trouve dedans des tas de choses qui ne devraient pas y être. Des perturbateurs endocriniens, du benzène, tout un tas de choses qui proviennent du fait qu'on a recyclé. Quand on recycle, on va remélanger des bouteilles qui sont plus ou moins propres. La colle des étiquettes est un problème, par exemple. Les souillures alimentaires aussi. C'est très compliqué à nettoyer.
Donc, d'après ce que vous nous dites, il y a énormément de points d'interrogation. Et la question, c'est est-ce qu'on peut remplacer aujourd'hui les plastiques par autre chose ? Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport justement aux matières plastiques ?
Alors, non, pas vraiment. On ne peut pas remplacer les matières plastiques par autre chose. Ce n'est pas si simple que ça. Certaines personnes se sont amusées à faire des petits calculs en se disant on va remplacer tous les emballages en plastique par autre chose. On s'aperçoit que ça, c'est absolument mauvais d'un point de vue environnemental. Non, il y a plusieurs choses à faire. Il y en a une qui est de notre responsabilité, c'est d'essayer, enfin de notre responsabilité. Notre responsabilité en tant que citoyen de pousser pour que on réduise l'utilisation des plastiques. On n'est pas obligé de suremballer, on n'est pas obligé d'acheter des pots de yaourt comme en France, seul pays en Europe, je crois que c'est le cas, des petits pots de yaourt. On a qu'à en faire comme tout le monde dans les autres pays, on prend des pots d'un demi-litre ou de 500 grammes, ou de, voilà, ça fait moins de plastique. On peut essayer de ramener avec des contenants qui sont réutilisables. Promener un contenant en verre, bah vous remplissez votre contenant avec une tirette de yaourt et puis vous le ramenez chez vous. Quand on a fait ça, on a éliminé des tas de petits pots en polystyrène qui sont impossibles à recycler. C'est impossible à recycler d'un point de vue industriel et de façon économiquement rentable et viable. C'est juste n'importe quoi. Il y a plusieurs couches de plastique qui sont un peu très compliquées à démêler. Alors, on vous expliquer que c'est possible et tout. C'est possible au labo, mais j'en doute très fort.
Et donc, individuellement, qu'est-ce que vous diriez à chaque citoyenne et chaque citoyen de faire par rapport à ça ?
De râler, d'aller... Quand vous voyez des magasins qui vous disent « zéro plastique, c'est fantastique, je vise personne, mais... » Bah, c'est juste du foutage de gueule, permettez-moi de le dire comme ça. Si vous enlevez dans ces magasins tout le plastique, il ne reste plus rien, il va rester trois pommes dans une cagette en bois. Donc c'est juste n'importe quoi. Donc il faut absolument faire en sorte qu'on fasse attention à ce que l'on fait. Mais regardez ce studio, c'est bourré de plastique. Et c'est très compliqué à substituer ça. Vous le substituez par quoi ? On ne peut pas. Ah, mon micro, il est en plastique, là. C'est difficile à substituer par autre chose. Mais on peut faire en sorte que le plastique dure plus longtemps, qu'on fasse très attention à ce que ce qu'il y ait une réglementation pour que les industriels utilisent des additifs qui soient les moins polluants possibles.
Eh bien, on va en rester là, Patrick Navarre. Merci infiniment. Nous allons prendre le temps d'une pause musicale pour écouter Symphonie Papale et puis nous conclurons cette émission.
poursuivrons le thème de notre émission Parlons des droits humains avec Patrick Navarre, président de l'association Sens pour tous 06, émission consacrée ce soir à l'accès à la science. Donc nous venons d'écouter une musique originale qui s'appelle Symphonie papale de Gaël Navarre.
Oui, Gaël, c'est mon petit garçon, voilà, qui est professeur de composition électroacoustique au Conservatoire de Nice. Il m'avait un jour fait un petit morceau pour moi qu'il a appelé Symphonie papale, parce que quand on regarde la partition, c'est les notes forment papa, 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 papa. Voilà.
Donc pour nos auditeurs, c'était vraiment un inédit. Conclusion de cette émission, un message que vous souhaitez faire passer auprès de nos auditeurs sur votre association, sur comment vous retrouver, quelles sont vos prochaines perspectives.
Alors, si vous êtes intéressé par la médiation scientifique, par connaître un peu la science, et notamment rencontrer des chercheurs, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller à la rencontre de gens qui vont vous parler de ce qu'ils font, de la science qu'ils font avec chaleur, avec passion. Eh bien, venez nous écouter, allez sur notre site, Science pour tous, 06, vous le trouverez tout simplement en tapant ça sur n'importe quel moyen moteur de recherche. Et puis, regardez ce qu'il y a autour de vous. Vous verrez, nous avons 200 sujets de conférences. Ça balaye tout ce qui peut vous intéresser. Et puis, ce qui ne vous intéresse pas, surtout, vous y allez. Parce que c'est là où c'est plus intéressant. Si vous allez sur quelque chose, vous êtes convaincu, que vous connaissez, bien sûr que c'est bien. Mais un sujet que vous dites, ça ne peut pas m'intéresser. Allez-y. Parce que justement, ça va vous intéresser.
Merci beaucoup Patrick Navarre. Donc, à nos chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette émission en la téléchargeant sur le site d'Agora Côte d'Azur. Et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission Parlons des droits humains sur le thème des visiteurs de prison qui aura lieu le lundi 20 novembre prochain. Bonne soirée à tous.